Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 2 du podcast Parler de nos vies, un podcast inspiré et inspirant pour vibrer un peu plus chaque jour. Je suis Emmanuelle Amey, coach, curieuse, blogueuse et avide de découvertes. C'est tout ce que j'ai envie de vous faire partager dans ce podcast qui multipliera à la fois mes réflexions, mes analyses, mes découvertes et mon envie d'aller à la rencontre de gens pour nous faire part de leur expérience. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec l'interview d'Arnaud Amoyal-Renard. Arnaud est un coach. J'ai souhaité l'interviewer au sujet de sa reconversion. Dans cet épisode, il nous parle de son chemin de vie, comment son rêve de petit garçon d'être président a pu l'amener au fil du temps à être praticien en hypnose et coach. Il nous raconte combien la musique a influencé ses choix, l'importance de s'écouter et de s'entourer de gens inspirants, et puis la nécessité de fermer la porte clairement pour en ouvrir une autre. Donc je vous laisse avec Arnaud et je suis super contente de l'accueillir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je reçois pour ma première interview Arnaud Amoyal. Renard derrière ?
Tout à fait, Arnaud. C'est moi. Voilà, Arnaud. Arnaud pour les intimes.
Arnaud pour les intimes. Alors Arnaud, je l'ai rencontré sur les bancs de la fac, j'adore dire ça. Alors on avait 18 ans, surtout moi. non bon ça va, laisse-moi te... tu me laisses me débrouiller. Non, c'était la fac de coaching.
C'est ça.
On s'est connus donc au diplôme de coaching de Paris 8. Et j'avais envie aujourd'hui de lui poser des questions au sujet de la reconversion. Parce que Arnaud, t'as pas toujours été coach.
Exactement.
T'as fait quoi enfin, est-ce que tu veux te présenter un petit peu?
Ouais, tout à fait. Donc justement, on va parler de reconversion. C'est une étape de ma vie qui a été assez importante, puisque actuellement, je suis coach, hein, comme l'a dit Emmanuel. Et avant d'être coach, j'intervenais en entreprise. Je faisais de la gestion de projet, du pilotage d'équipe. Et j'en ai eu un peu marre et j'ai eu tout simplement envie de me lancer un peu plus vers l'humain pour accompagner justement des personnes à avancer dans leur vie. Et du coup, je suis passé par une phase de reconversion pendant laquelle il y a eu pas mal de questionnements, de doutes, de peurs, de désirs, de rêves, d'envie. Et du coup, c'est le thème de notre podcast, on se dit, je crois, quelque chose comme ça.
Podcast. Et quand tu étais petit, tu voulais faire quoi comme métier, toi?
Quand j'étais petit, ça n'a pas vraiment changé puisque je voulais être...
T'es toujours petit, tu veux dire?
Ouais, je pense que c'est important de garder son âme d'enfant. mais c'est surtout je voulais être président, je crois. Ou,
président de la République?
Ouais, carrément.
Moi, ouais.
Ou rockstar.
En vrai, de vrai.
Ouais.
D'accord.
Et d'ailleurs, ouais, c'est pour ça que je continue encore un peu la musique. Voilà.
Ouais.
Donc les rêves n'ont pas forcément changé. En tout cas, ce que je voulais, c'était être utile. J'avais envie de faire quelque chose de ma vie, de pouvoir marquer les esprits et donner le max de ce que je pouvais donner.
D'accord. Et du coup, c'est pour ça que tu as fait quoi comme étude ?
Eh bien, j'ai fait école de commerce.
Pour donner le max.
Ouais, parce que...
Le max de pognon aux entreprises.
C'est ça. non, mais en fait, école de commerce, je ne savais pas trop, en fait, ce que je voulais à l'époque. Ça, c'est mes rêves d'enfant dont j'ai parlé. Mais à l'époque des grandes études, je ne savais pas trop. Et quand on ne sait pas trop, on prend des trucs un peu généraux. Et je pense que j'aurais eu besoin d'un coaching à l'époque.
Et tes parents, ils ont influencé tes choix à l'époque ou tu savais vraiment que tu voulais faire du commerce, ça correspondait à l'époque ?
Non, je pense qu'il n'y a pas eu trop d'influence. J'écoutais un conseiller d'orientation à l'époque. Apparemment, il ne faut pas forcément les écouter et faire le contraire de ce qu'ils disent. Je crois que c'est Aurel San qui dit ça dans une chanson. Mais en tout cas, le mien m'avait dit, c'était à l'époque où on s'oriente dans les sections, si on prend à l'époque du bac S, ES, L, etc. Il m'avait dit, t'as le choix, tu peux passer en ES, mais tu peux peut-être passer en STT. Et puis, STT, tu seras peut-être mieux, tu seras peut-être plus concret. Et puis, du coup, j'ai pris cette voie. Et après, quand on sort de cette filière dans laquelle il y a pas mal de droit, d'éco, de compta, de gestion, Bah après, ce qui est bien, c'est de faire soit un BTS, soit un IUT. Je me suis dit que je voulais continuer. En fait, je voulais m'ouvrir le plus de possibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un IUT. Et après l'IUT, j'ai fait une école de commerce. Et après l'école de commerce, j'ai eu un petit moment où je ne savais pas trop où aller. Et j'ai atterri là où ça embauche, c'est-à-dire tout ce qui est SS2I, hein, les fameuses sociétés un peu de conseil, on va dire, de gestion de projet, qui envoient du coup des consultants dans des grands groupes ou des plus petites structures pour faire bouger les choses. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. C'est vrai que quand j'y réfléchis maintenant avec mon regard, je me dis, je suis un peu arrivé, je me suis pas forcément posé les questions que j'aurais dû me poser. En tout cas, si je devais le refaire là, je me poserais plus de vraiment qu'est-ce que je veux vraiment. Et je pense
Ouais,
que ça, c'est
ben,
mieux.
est-ce qu'on est capable de faire ça à 18 balais?
Je pense qu'on est capable, c'est juste qu'on ne nous l'apprend pas.
Ouais.
Typiquement, voilà, je reparlais du conseiller d'orientation tout à l'heure. Je crois que pas une seconde, il m'a demandé ce que je voulais faire.
C'est ce que je disais hier dans
Ouais.
la première, le premier épisode où je racontais un peu mon parcours à moi. Et justement, je disais que moi, j'avais vu une conseillère d'orientation, qu'elle avait ouvert son grand livre et qu'elle m'avait dit, toi, tu feras
Ah,
orthophoniste.
d'accord.
Donc c'était pareil, quoi. Je me suis dit,
Ouais,
ok, d'accord.
d'accord.
Mais je me rappelle pas effectivement qu'elle ait demandé qui j'étais, est-ce que j'avais envie, quoi.
Finalement, tu fais presque orthophoniste vu que tu fais parler les gens maintenant.
Exactement,
Ouais.
j'ai fait aussi ce lien-là récemment en me disant que finalement ça se tenait un peu, finalement. Ouais.
Ah oui.
Et oui, donc du coup, tu crois qu'à 18 ans, on pourrait être
Ouais,
sensibilisé davantage?
carrément. Je pense, et c'est pas nouveau, hein, cette idée-là, c'est qu'à l'école, on nous apprend vraiment la technique de comment compter, comment parler, etc. Par contre, vraiment de se trouver, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut faire. Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été guidé. Je me rappelle, là, j'ai des souvenirs, hein, qui viennent comme des flashs. Je me souviens qu'il y avait je crois que c'était une matière, ça devait être mêlé à l'éducation civique, donc du vaste pipeau, où on te mettait devant un ordinateur et tu sélectionnais les domaines qui t'attiraient. Et à la fin, tu avais des métiers proposés, tu consultais des fiches métiers. Mais voilà, c'est le seul truc, je crois, qu'on ait fait dans ma scolarité pour m'aider à savoir ce que je voulais faire. Donc, bon.
Donc président quoi, ne sachant pas,
Ouais, ne
t'as vu un
sachant
gars à la
pas, je suis resté
télé.
dans des trucs abstraits. Mais je pense qu'en fait, ouais, il y avait le désir, en fait, d'améliorer les choses. Voilà. J'ai toujours voulu, moi je suis un utopiste à la base, hein, c'est-à-dire que je suis assez optimiste de nature et j'ai toujours pensé qu'il fallait déjà avoir des rêves, donc rêver sa vie et après la vivre, sa vie. Et du coup, bah voilà, moi j'ai souvent mes actions au final qui m'ont guidé ont été pour satisfaire des rêves. Et peut-être qu'au départ, quand j'ai fait l'école de commerce, le rêve c'était. Bah, à l'époque, j'avais je sais pas, 20, 22 ans, m'insérer dans la société, c'est peut-être le rêve que j'avais, gagner du fric, voilà, être dans des boîtes sympas, voilà, c'était peut-être ça sur le moment qui m'attirait et qui me paraissait facile, accessible, qui correspondait à mon implication dans les études.
Donc tu t'es retrouvé dans des grandes boîtes
Ouais.
à faire du consulting, c'est ça?
C'est ça, ouais, on peut dire ça. Dans des grandes boîtes, avec des missions quand même assez intéressantes, hein. Donc, en fait, ce que j'ai fait, je suis très content de l'avoir fait, parce que ça m'a apporté beaucoup, dans le sens que c'était très varié, j'avais beaucoup d'interlocuteurs. En fait, je pilotais des équipes pour permettre que des projets puissent se réaliser en temps, en heure, pour un budget donné. Donc, des grosses responsabilités, voilà, de la pression. Et puis des gros enjeux. Donc voilà, chez Renault, on parlait de projets quand même à plus d'1 milliard d'euros. Chez Bouygues, ça se chiffrait en millions. Donc c'était quand même challengeant intellectuellement.
C'est ce qui fait que t'as tenu le coup, quoi. C'est ça que
Ouais,
tu dis, ouais, que
c'est ce
ça
qui fait
t'animait quand même,
que.
quoi.
Ouais. J'aimais en fait, hein, quand même ce que je faisais, mais ça ne me satisfaisait pas complètement. Ça satisfaisait des besoins. Des besoins de reconnaissance financiers, satisfaction personnelle de réussir à guider des projets, plaisir de travailler avec des collègues, ça j'ai adoré. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que c'est que réussir sa vie?
Tu t'es vraiment posé cette
Ah
question
ouais,
là,
je
tu
crois que ça a
l'écris pas,
été.
genre je fais un livre de
Non,
développement
non, non,
personnel,
non,
tu t'es
non.
vraiment posé cette question là.
Ben ouais, je crois que ça a été un des grands déclics.
Ouais, et ça vient d'où? Comment tu t'es dit un matin, mais c'est quoi réussir sa vie?
Eh ben, je crois que c'était une conversation avec une. C'était, je crois, attends, c'était avec ma belle-mère.
Ouais.
Et je crois que je lui ai dit. Mais ouais, en fait, je crois que je lui ai dit, je me suis posé la question. Alors, peut-être que je l'ai fait en direct en même temps que je lui demandais. Mais je me suis posé cette question-là. C'est quoi réussir sa vie? Est-ce que c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire gagner plein de pognon? Parce que c'est vrai que je gagnais beaucoup d'argent. Et aller à un boulot dans lequel, ben, ok, je suis pas mal intellectuellement, ça se passe bien, mais c'est pas non plus le truc le plus foufou que de se lever le matin. Et je ferais bien autre chose, j'aimerais mieux me sentir plus utile directement dans de l'humain, au lieu vraiment ben, de développer des compétences, on va dire, techniques. Donc je sentais que j'étais pas aligné en fait avec ce que j'avais vraiment envie. Et je me suis dit, est-ce que réussir sa vie, c'est vraiment faire ce qu'on aime de sa vie? Est-ce que c'est se lever le matin, être heureux, savoir qu'on est à sa place? Ou est-ce que c'est gagner plein de pognon et réaliser les rêves de la vie d'un autre, en fait, tout simplement, les rêves d'un autre.
Parce que tu avais l'impression de réaliser, de vivre la vie de quelqu'un d'autre?
Bah ouais, surtout de m'investir, de me lever le matin pour quelque chose qui n'était pas essentiel chez moi. C'est-à-dire que oui, je faisais plaisir à mes managers. J'ai eu la chance d'avoir des gens avec qui j'avais une bonne entente, qui étaient contents de mon boulot. Mais ok, je leur faisais plaisir, ok, les projets aboutissaient. Mais quel était le sens à tout ça?
Tu te faisais plaisir à toi?
Y avait un certain plaisir, mais je pense que c'était peu par rapport à vraiment ce que j'en attendais.
Et à l'époque, tu avais des activités annexes?
Ouais, beaucoup de musique.
Ouais, toujours.
Ouais, beaucoup de musique. Et du coup, bah, c'est assez rythmé. Hein. La journée, j'avais un peu l'impression d'être en dédoublement de personnalité. La journée, un boulot un peu sérieux. Et puis, le soir, la musique et les bières avec mon groupe. Donc, voilà, c'est. Ouais, c'était une. Non, c'était une période. En fait, quand je le regarde maintenant, une période intéressante. Mais pas satisfaisante au point de vue de est-ce que je suis aligné avec ce que je suis vraiment? Est-ce que je donne vraiment mon vrai potentiel? Est-ce que je me sens utile pour le monde? Est-ce que
T'étais pas
c'est moi
président,
ça?
donc c'était pas raccord encore.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, il manquait quelques étapes.
Donc, t'as discuté avec ta belle-mère, tu réalises que le sens de ta vie, c'est peut-être pas celui-là. Et après, l'étape d'après, ça a été quoi alors?
Ouais,
Une
ouais,
prise de
ouais.
conscience, a priori?
Alors ouais, mais je pense que ça s'est pas fait non plus d'un coup comme ça. C'est pas juste cette prise de conscience qui a fait. En fait, je savais qu'à un moment donné, j'étais bien dans mon boulot et pas bien.
Ouais.
C'est-à-dire que j'étais bien parce que ce travail m'achetait de par le côté financier, donc j'avais un confort de vie, mais c'était inconfortable pour moi émotionnellement de me dire, je fais un truc qui n'a pas tant de sens que ça pour moi. C'est un peu le côté de se projeter plus tard et de se dire qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Bon ben ok, j'ai mené à bien des projets, je les ai fait avancer, mais est-ce que j'ai envie qu'on retienne ça de moi? Il y avait un peu cette idée de
Si je crève, il y aura quoi sur ma pierre
ouais,
tombale, quoi?
qu'est-ce qui va rester? C'est un peu ça. Et ça, j'ai eu assez tôt cette idée-là. Et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, j'endurais entre guillemets cet inconfort. Parce que j'avais ça comme idée, mais j'avais aussi les activités annexes et je savais que ça serait qu'une étape. Je me voyais pas non plus être consultant, devoir. En fait, ce qui me gênait beaucoup aussi, c'était de voir toute cette pression qu'on a quand on est en entreprise, devoir s'habiller d'une certaine façon. Alors, heureusement, j'ai toujours réussi à esquiver ça, à rester assez libre par rapport à ça, mais devoir tout le politiquement correct, répondre d'une certaine façon, les cordialement dans les mails, alors que, en fait, tu vois que les gens, ils vont peut-être se tirer un peu dans les pattes. Tout ce côté un peu superficiel du monde de l'entreprise m'a beaucoup gêné. Maintenant, j'ai aussi eu des super relations, mais voilà, ce côté très formaté, très système, cadré. Bon, voilà, je sentais que je me sentais pas assez libre, en fait,
Alors,
simplement.
comment t'as fait pour trouver un autre métier qui te convenait davantage?
Et ben, comment j'ai fait? Je pense que je me suis écouté, c'est-à-dire J'ai poursuivi ce qui m'intéressait. Donc à l'époque, je faisais beaucoup de musique. J'avais pas mal de lectures sur le développement personnel.
Excuse-moi,
Ouais,
t'as une idée de
dis-moi.
bouquin qui t'a fait percuter un peu particulièrement ou...
Ouais, il y en a plusieurs. Alors il y en avait un, alors pas du tout, on va dire, sérieux entre guillemets, que j'avais lu chez Nature et Découverte. C'était les éditions Marabout.
Ouais.
Et c'était un bouquin sur le taoïsme. C'était super intéressant. Là-dessus, j'en ai vraiment.
C'est un bouquin que tu as lu à la caisse, quoi, en gros.
Et non, même pas,
Tu l'as
non, non,
acheté et tout.
je l'avais acheté. Et ça, c'était déjà peut-être même avant de commencer ma vie pro. J'étais encore en études. Et ça, c'était vraiment une belle réflexion sur soi, sur le monde. En tout cas, ça m'avait assez imprégné. Et après, vraiment, pour l'idée de la reconversion, je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose à ce moment-là. Donc, j'ai lu des livres.
Mais ça venait d'où cet intérêt pour l'hypnose?
Et ben à la base, quand je faisais beaucoup de musique, j'aimais bien le côté un peu spectaculaire, un peu farfelu, un peu mystique des choses. Je m'intéressais à tout ce qui sortait de l'ordinaire, tout ce qui était un peu underground. Donc du coup, bah voilà,
T'as
j'ai.
un exemple de groupe de chanteurs qui pourrait pour que certains comprennent davantage?
Ouais, j'aimais bien par exemple l'univers graphique des Smashing Pumpkins typiquement, un groupe de grunge. Tu connais?
Je connais Smashing Pumpkins, tu m'as perdu avec univers graphique et je m'attendais à une
Ouais.
référence musicale.
Alors univers musical, mais
Graphique.
effectivement c'est ouais le côté un peu visuel de la chose. Leurs clips, ils sont,
D'accord.
j'adore, voilà, ça m'a fait penser à ça. Tu parles de musique, effectivement. Je pense aussi à Placebo, je pense à Indochine, je pense à Cure. Dans ces groupes-là, il y a quand même un côté un peu mystérieux.
Fait un peu planer, quoi, c'est ça, un
Ouais,
truc un peu.
et planer et un côté très univers.
Ouais.
Depeche Mode aussi.
Univers, c'est-à-dire chaque groupe a un univers qui lui
Voilà, ils ont un
appartient, tu
univers
veux
très fort.
dire.
C'est pas
Ouais.
juste des mecs qui branchent une guitare et qui jouent avec un t-shirt blanc.
Ok.
C'est des mecs.
Qui ont construit un
Ils se
look.
maquillent, ils ont un look, dans leur texte, il y a des choses particulières. Enfin, il y a un côté mystérieux, on ne comprend pas trop, on est un peu subjugué. En tout cas, moi. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Et j'en suis arrivé à la communication. J'avais déjà eu des formations de PNL, ça m'avait beaucoup intéressé. Des petites formations. Et puis j'ai lu des livres d'hypnose. Et puis, à force de lire, je me suis dit, mais en fait, ça serait bien que je sache pratiquer cette discipline parce que
Mais
c'est super.
il y a un truc que je comprends pas
Ouais.
entre les groupes avec un univers
Ouais.
et l'hypnose.
Ah ouais. Bah en fait, je faisais pas mal de musique et puis du coup, bah le sou. Donc alors la journée, je bossais. Le soir, je faisais ma musique et puis quand j'avais du temps, bah je lisais justement des livres qui m'intéressaient.
D'accord. Et t'es
Et
arrivé comme
le côté un
ça.
peu mystique, un peu univers, un peu space de l'hypnose, à ce moment-là, m'a plus attiré par le
C'était
côté
raccord
spectacle.
avec tout ça,
Voilà, c'était
d'accord.
raccord avec tout ça.
Ok.
J'étais là-dedans un peu à ce
D'accord.
moment-là. Je devais avoir dans les 25 ans, 26 ans, voilà.
T'étais plutôt jeune déjà.
Ouais, bon après on est jeune,
On restait jeune toute sa vie, d'accord.
voilà,
Ok.
tant qu'on a l'esprit.
Non mais c'est parce que tu dis je devais avoir 25 ans, comme si ça excusait un peu l'univers.
Ouais, non, parce que maintenant je suis peut-être un peu moins mystique, mais effectivement, ouais. Mais je suis plus barré maintenant en fait, hein, même encore. Enfin bon, bah, après il n'y a pas d'âge. Hein.
Il n'y a pas d'âge. Bon, alors, donc, tu as 25 ans, tu es
Ouais,
barré,
ouais,
tu
ouais, ouais,
t'intéresses à l'hypnose et au
ouais.
groupe un peu planant,
Voilà,
et donc...
je lis tout ça. Ma musique à ce moment-là s'arrête un petit peu parce que voilà, ça s'essouffle un peu, on prend des directions différentes. Et puis, je me consacre du coup à mes formations d'hypnose. Donc, je fais des formations. La journée, enfin la semaine, je bosse du coup avec mes collègues en entreprise. Et puis, le week-end, en vacances, je fais mes formations. Et puis, une fois que j'ai fait mes formations, en fait, elles se sont super bien passées déjà. Et ça m'intéresse vraiment. J'ai fait les formations à l'Arche. Vraiment bien niveau pédagogie. Enfin, quelque chose qui m'a. Voilà, une belle transmission de l'accompagnement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu envie de pratiquer parce que je sortais de ces formations. Ça se passait bien dans le sens que je m'appropriais bien la technique et je me trouvais assez doué là-dedans. Donc du coup, j'avais envie de voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça allait donner.
Ça veut dire quoi, tu te trouvais assez doué?
Je me trouvais doué dans le sens que...
Il s'auto-kiffe.
Ouais, non,
mais c'est important de s'auto-kiffer.
C'est important, non, mais j'assume. C'est que j'avais pas trop à forcer. C'était assez naturel. Pourquoi c'était assez naturel? Parce que dans l'hypnose, on retrouve vraiment un côté artistique. En tout cas, dans la manière dont je l'ai appris dans l'école dont je parlais. Il y a vraiment un côté, pouvoir improviser, raconter une histoire, susciter l'intérêt chez l'autre, être attentif à l'autre.
Est-ce qu'on pourrait dire, si je fais le lien avec tout à l'heure en entreprise où tu ne te sentais pas aligné, est-ce que là, justement, tu te sentais aligné avec des valeurs qui te convenaient davantage?
Ouais.
Parce que si tu dis, c'est très français de dire je me trouvais doué, ça fait un peu prétentieux. Non, mais c'est pour éclaircir ce que tu voulais dire. Et justement, ce que tu veux dire, c'est que justement, tu te sentais à ta place, quoi.
Ouais, on coupera
mais
ce passage.
Mais tu peux être doué. Mais tu peux aussi être doué.
mais en fait, ce que je veux dire, doué là-dessus, c'est pas du tout la prétention.
C'est ça, ça pourrait être interprété
en
comme
fait,
ça, c'est pour ça.
Ouais, mais c'est pas grave. Après, les gens vont penser ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que reconnaître ses qualités, c'est important,
ouais,
tu le disais. Et oui, quand je dis doué, ça veut dire que... ça ne me nécessitait pas beaucoup d'efforts. C'était assez naturel pour moi parce que le côté artistique était très présent à cette époque-là. Et tout ce que du coup je mettais plus trop dans la musique, je le mettais dans l'hypnose. Je le mettais dans mon rapport à l'autre. Je le mettais dans ce que je racontais à l'autre. Oui, ça suscitait des choses chez l'autre. Donc, j'ai su le voir, ça. Que déjà dans la formation, quand je faisais des essais d'hypnose, il se passait quelque chose pour l'autre. Et donc, du coup, forcément, j'ai eu envie de pousser le truc plus loin. Je me suis dit, je me sens plus à ma place là-dessus. J'ai plutôt l'air de bien m'en sortir sur cette technique. Donc, voyons ce qui se passe en extérieur dans un vrai cabinet. Et donc là, j'ai pris un cabinet.
Tout de suite, à la fin des études, tu as pris un cabinet.
Ouais,
donc, tu as lâché l'entreprise.
Alors non, en parallèle.
Tu as pris un cabinet en même temps que tu bossais encore à plein temps?
Exactement, ouais,
à
c'est
plein
ça.
Temps.
Ouais.
Okay.
Donc je bossais à plein temps et le samedi j'avais un cab. Donc j'y suis allé progressivement, pas prêt encore à lâcher tout mon confort matériel. Et puis je trouvais que c'était déjà une manière de tester, de voir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va me plaire? Etc. On ne sait jamais vraiment, on peut s'en douter, mais le fait d'expérimenter, j'avais vraiment envie d'expérimenter avant de lâcher quand même des postes qui étaient quand même super confortables.
Comment tu t'es fait connaître alors?
Comment je me suis fait connaître? J'ai fait un site internet. C'est tout, surtout. J'ai mis des pubs Google AdWords pour faciliter du coup l'aiguillage des gens vers mon site. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé dans
donc
des soirées.
Donc le cercle premier, c'est ça?
Ouais, le cercle premier. J'ai pas trop eu à forcer pour que ça démarre. Donc j'avais quelques séances le week-end. Et à ce moment-là, en plus, j'ai envie de dire, j'étais aligné et les choses à l'extérieur de moi-même s'alignaient. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je change de mission, je passe dans une autre boîte. Et là, je passe dans une mission qui, pour le coup, me plaît pas du tout, qui est trop technique pour moi, alors que moi, j'avais vraiment envie d'aller vers l'humain. Et je passe dans une période de mou, donc on appelle en conseil, en consulting, période d'intercontrat, où je suis payé, mais j'ai plus trop d'activité. Et je pourrais profiter à ce moment-là de tout le temps que j'ai, mais je sais pas, j'avance pas. C'est-à-dire que j'aurais pu, ça a duré 3 mois cette période-là. Pendant 3 mois, j'étais payé à rester chez moi. Donc j'aurais pu profiter de ça pour développer mon activité, chercher des clients et tout, mais je sais pas, ça démarre pas. J'étais un peu tiraillé. J'étais en même temps pas parti de ma boîte, mais en même temps présent encore dans ma boîte, susceptible de devoir répondre si on m'appelle. Donc pas libre dans ma tête. Et là, le gros déclic a été là. Je faisais des séances, je refais donc du coup un pan de ma formation et je vois une amie d'amis, Delphine peut-être, tu te reconnaîtras.
Merci, j'ai fait ça fera une auditrice en plus,
voilà,
tu lui transmettras.
Ça, je lui transmets. et du coup, je l'avais amené à une session d'hypnose de cabinet public donc que faisait le formateur principal de l'Arche. Et elle avait vachement accroché, et puis elle voulait que je fasse une séance d'hypnose. Donc je lui fais une séance d'hypnose, et bon, bah, visiblement, ça avait permis de pas mal débloquer de choses, donc elle était contente, moi aussi, parce que bah ouais, je débutais quand même à ce moment-là. Et puis, bah, on échange, l'idée c'était qu'elle me fasse une séance de coaching. Parce qu'elle, elle avait suivi une formation de coaching avant. Et là, eh ben, ça a été le vrai déclic, dans le sens qu'elle a su me poser une question, elle a su m'amener à réfléchir d'une façon qui fait que c'était évident pour moi que je ne pouvais plus rester dans ma boîte. Et que si je voulais me réaliser, si je voulais être bien là où je suis, ben, il fallait que je bouge. Et il fallait que je dépasse mes peurs. Parce que la peur de manquer d'argent, la peur de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, la peur des gens aussi, la peur des autres. Beaucoup de personnes...
Les autres, du regard des autres, tu veux dire ?
Ouais, et puis même les proches, les amis. Ah, mais déjà, tu fais de l'hypnose.
Oui, c'est ça, du regard des autres, regard de ce que tu allais abandonner.
C'est chelou déjà de faire
quoi.
De l'hypnose. Ouais. Exactement, c'est bizarre. Déjà, tu dis tu fais de l'hypnose, t'es, ah ouais, tu fais de l'hypnose, oh là là... Ok, donc déjà, tu crées une interrogation, voire une inquiétude. Ensuite, ah, mais tu veux lâcher ton boulot. Beaucoup te disent, mais ça va pas, attends, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu ferais pas, pourquoi tu continuerais pas, c'est peut-être là la mission qui te plaît pas. Donc, beaucoup de personnes qui essayent finalement de te maintenir là où tu es. Parce que peut-être, je sais pas, ça les rassure dans leur vision de la chose. Et du coup, la famille aussi, mais comment tu vas faire ? Donc, il faut arriver à faire face à ses propres peurs, la peur que rajoutent les autres et l'incertitude, puisqu'on sait effectivement ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va gagner derrière.
Et à ce moment-là, ton cabinet, tu avais combien de...
Oh bah là, c'était
peu... Tu avais des séances tous les samedis ?
Ouais, tous les samedis, j'avais allez, deux, trois séances le samedi.
Par samedi ?
Ouais.
D'accord, donc 12 séances par mois.
Ouais, c'était pas okay. Folichon non plus, et peut-être même moins à certains moments. Mais alors que j'avais du temps à ce moment-là, mais je sais pas, j'arrivais pas à passer à la vitesse supérieure. Et donc là, cette session de coaching, pour faire simple, la question finalement qui en est sortie, en fait, ce que m'a fait Dolphine à ce moment-là, c'est me faire ce qu'on appelle. Un travail de dissociation et de modélisation. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, tiens, c'est qui t'inspire, à qui t'aimerais demander un conseil si tu devais, je ne sais pas, bah là, te reconvertir. Parce que là, je ne savais pas si j'allais passer le cap. J'étais en doute, j'étais en peur. Et je dis, bah, toujours un peu dans la musique, je dis, bah, tiens, j'aimerais bien... parler à Brian Molko.
Je me rappelle de cette histoire.
Ah ouais, je te l'avais déjà raconté.
Tu l'avais raconté en amphi, je crois.
Ah, peut-être alors. Ouais, bah, elle m'a marqué en même temps. Ouais. Et je vais la faire simple, en fait. À un moment donné, bah, je demande à Brian.
Hey, Brian.
Alors, je lui dis, c'est quoi réussir sa vie et si je veux réussir ma vie, bah, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il me répond à un truc du genre... je ne sais pas exactement ce qu'il m'a répondu, mais en tout cas, moi, ce que je mémorise aujourd'hui, c'est « mais si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire de ta vie, alors tu dois faire des choses extraordinaires. Si tu veux que ta vie soit extraordinaire, pourquoi tu suivrais les conseils de gens qui choisissent la sécurité, de gens qui choisissent une vie bien rangée ?» Et donc, quand Brian m'a dit ça, eh ben, je me suis dit « mais oui ».
Brian a raison.
Donc si je veux une vie extraordinaire, si je veux autre chose que métro, boulot, dodo, eh ben, il faut que je prenne des risques, il faut que j'assume. Et ben, si c'est là où je dois être, ça matchera, ça marchera. Donc, suite à cette séance, du coup, j'ai eu une révélation et je me suis dit, allez, je vais négocier ma rupture conventionnelle. Et ben, voilà, j'ai négocié ma rupture conventionnelle, je suis parti de ma boîte. Et là, boum, ça démarre tout de suite très fort. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai des séances, alors que je n'ai pas forcément l'impression de faire plus de com, mais je ne sais pas, je suis plus cohérent avec ce que je suis à ce moment-là. Je suis plus en cohérence. Et du coup, bah, les clients viennent, le bouche à oreille commence à fonctionner. Je fais une formation d'hypnose encore plus poussée. Ce qu'on appelle le maître praticien, et juste à ce moment-là. Et ce qui est assez dingue, c'est que juste à ce moment-là, j'ai mon ancienne cliente qui me rappelle pour venir rebosser.
Dans la grande entreprise que tu avais quittée?
Ouais, dans une des grandes entreprises que j'ai quittées. Et ben là, il y a à nouveau la question de « Waouh, je suis en train de me lancer, ça
et
commence à démarrer. »
Es-tu vraiment sûr, Arnaud, que Brian Molko était
bah,
devant
ouais,
toi?
Es-tu vraiment sûr? Là, à nouveau, il y a les doutes qui reviennent. Je passe des entretiens pour un autre grand groupe.
Ah, t'y vas quand même?
Pour un grand groupe, ouais, de, justement, qui place des consultants. Ils me proposent des conditions exceptionnelles de salaire, encore plus haut que ce que j'avais. Des formations à gogo, enfin, des trucs vraiment qui, ouais, sur le papier, font rêver. Et là, je viens de quitter ma boîte, je peux me réengager en plus pour un travail, c'était à côté de chez moi. La cliente, elle était acquise parce qu'elle avait bien aimé ma manière de travailler. Donc, je savais que ça allait être un travail en pantoufle, entre guillemets, à côté de chez moi en plus. Et j'ai le choix entre ça ou me lancer dans l'aventure de l'hypnose. Et bah, hésitation forcément. Et puis, à un moment donné, bah, je choisis tout simplement d'écouter Brian.
Brian, ouais.
Et d'aller à fond. Et donc, au bout du deuxième entretien, je fais comprendre au recruteur que, non, ça ne m'intéressera pas et que je ne le ferai pas.
Donc, tu continues le cabinet d'hypnose.
Exactement. Et donc là, c'est le moment où le proverbe « choisir, c'est renoncer », là, il est vraiment vrai. Parce que quand j'ai su à quoi je renonçais, c'est là où je me suis vraiment engagé. Et là, à partir de là, après cette formation, après ce non et ce oui à autre chose, c'est là où ça a vraiment, vraiment très, très bien démarré, puisqu'après, j'ai pris un cabinet, dans ma ville. Et après, ça s'est rempli. Dès le premier mois, j'avais déjà largement assez de clients pour le payer et bien vivre derrière.
Qu'est-ce que tu entends par renoncer? Je savais vraiment à quoi je renonçais et du coup, ce que je voulais, c'est,
ouais.
Ça veut dire quoi?
Je renonçais
donc un gros
à l'appât du gain.
Ouais.
Je renonçais au confort, je renonçais à la facilité, je renonçais au fric qui tombe tous les mois.
Ouais, et du coup, en quoi renoncer à ça? T'as fait
cartonner
en hypnose, en fait.
Bah parce que du coup, à un moment donné, mon choix, il était posé. C'est maintenant que j'ai dit non à ça.
Avant, tu ne l'avais pas complètement dit. Puisqu'on est revenu te tester là-dessus, tu considères
c'est
que ce n'était pas un
ouais.
vrai non, quoi.
C'est ça, c'est qu'avant, c'était encore tangent.
Donc là, tu as fermé la porte, quoi.
Bah ouais, si je fermais la porte à ça, c'était pas pour après, deux mois après, la rouvrir et rechercher à nouveau un boulot dans le
donc
même
là,
style.
C'était complètement ouvert à l'hypnose.
Bah exactement, en fait. C'est très bien que tu me reposes cette question-là, parce qu'il y a cette idée, oui, de fermer la porte.
D'accord.
À un moment donné, clairement, te permet d'ouvrir clairement la porte à autre chose.
C'est intéressant.
Ben ouais, et ça, puisqu'on parle de reconversion, je pense que c'est très important à un moment donné de se poser la question à quoi on renonce, à quoi on est prêt à renoncer, à quoi on n'est pas prêt à renoncer aussi, et qu'est-ce qu'on va chercher derrière, qu'est-ce qu'on veut y gagner. Et là, du coup, les peurs, elles se sont dissipées. J'ai du coup écouté plutôt le désir qu'il y avait plutôt que la peur, parce que souvent dans une peur, tu as un désir derrière. Là, le désir, c'était le désir d'avoir un travail. C'était même pas d'avoir un travail, c'est pas vrai. C'était le désir de faire quelque chose qui a un sens.
Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, avec ton envie d'être aligné avec tes valeurs, d'apporter quelque chose aux autres.
Exactement.
Dans l'humain et pas dans les
pépettes. Tout à fait,
tout à fait.
Apporter quelque chose aux autres, et oui, à l'altruisme, c'est important, mais aussi de m'apporter quelque chose à moi. Parce qu'il ne faut pas non plus s'oublier dans ce genre de démarche. C'est très très beau de vouloir aider des gens, de vouloir apporter des choses aux autres, mais à travers ça, je voulais aussi m'apporter moi la satisfaction du sens que je donnais à ma vie.
Donc la belle maman revient. Est-ce que là, belle maman, finalement, t'as trouvé le sens que
ouais.
à ta vie à ce moment-là?
En fait, c'était plus sous forme de question tout à l'heure, mais après, je sais pas si on trouve toujours un sens ou si ce sens il n'évolue pas aussi avec le temps. Je ne sais pas si c'est quelque chose de figé.
Est-ce qu'il faut donner un sens à la vie,
En fait, j'ai l'impression plutôt qu'il faut donner un sens à ce qu'on fait dans l'instant.
Ouais. C'est donc au présent davantage.
Ouais, au présent. Ouais. Mais c'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait en tant que coach. C'est permettre à la personne à un moment donné de se poser, de mettre comme si on mettait le monde sur pause. Et puis de dire, là, est-ce que ce que tu fais, ça t'est utile dans ta vie? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça t'alimente des émotions positives? Ou est-ce qu'au contraire, ça te fait chier et c'est quelque chose qu'il faut que tu zappes. Donc oui, je pense que la question du sens, en tout cas chez moi, a été assez importante. Et là, oui, là, je me suis senti très aligné. Et du coup, le côté business a bien marché, puisque bah oui, j'ai pu en vivre, j'ai même pas baissé de niveau de vie en faisant mon accompagnement en hypnose.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve super inspirant chez toi, parce que
Ouais.
à la fac, ouais, c'est bien de dire t'es inspirant,
Oh là là. Attends, après on
t'as
va dire qu'on est prétentieux ou qu'on s'auto-like,
vu? C'est
qu'on
pas grave.
s'auto-kiffe.
Mais en fait, c'est vrai que quand on... Donc on a fait la formation en 2016-2017,
17, ouais, 16-17, ouais, c'est ça.
on nous a pas vendu du rêve, hein, vraiment, on nous a pas dit vraiment qu'on allait gagner notre vie avec du coaching, et c'est encore une croyance qui est assez active, comme quoi les coachs ne font pas de coaching, et on en connaît pas mal qui n'en font pas. Et moi, ça m'a toujours porté, en fait, de t'entendre toi dire que si c'était possible, quoi, si t'y crois, ça le fait.
Bien
Et
sûr.
ça, c'est hyper... ça m'a fait vachement de bien, et ça me fait encore du bien de l'entendre, quoi.
Ouais. Et ça, effectivement, ce que tu dis, mais c'est super important. Là, on touche un point qu'on travaille beaucoup en coaching, hein, c'est les croyances. Les croyances qu'on a sur soi, sur le monde, sur les autres, elles conditionnent notre vie. Et ce qui fait que j'ai pu me reconvertir et que ça fonctionne, c'est parce que j'ai cru que c'était possible. C'est parce que j'ai cru que j'étais capable. C'est parce que je me suis dit que j'étais à ma place. Si je n'avais pas cru en ça, je pense que j'aurais pas agi de la même façon. Les croyances, elles impactent directement nos comportements. Donc, effectivement, croire en son projet, croire en soi, comme le dit aussi Emmanuel, s'entourer de personnes qui vont aussi porter ça. Parce qu'on a vite fait de s'entourer de gens qui, pour des bonnes intentions, pour nous protéger, pour nous aider, il y a plein de bonnes intentions derrière, vont peut-être parfois couper l'herbe sous le pied. S'inspirer, c'est important. S'inspirer de gens, de personnes. Voilà, moi je me suis inspiré de Brian et puis Emmanuel de moi. Bah
Ça
voilà,
va,
c'est
tranquille.
tranquille.
Bon, mais alors, du coup, donc tu quittes l'entreprise, tu fais une formation d'hypnose, t'es à ta place, et pourquoi le coaching alors?
Pourquoi le coaching? Pourquoi le coaching? Parce que j'adore l'hypnose, mais il y a toujours un mais. Je voulais pas m'enfermer dans une discipline, je voulais pas m'enfermer dans une technique, même si je pense qu'un hypnose est plus qu'une technique, mais ça reste quand même assez ciblé et j'avais envie de découvrir un domaine, une discipline plus large. Je trouve que le coaching à ce moment-là pouvait être totalement complémentaire à ce que je faisais et en même temps faire le pont avec ce que je faisais au départ dans l'entreprise, dans toutes les fonctions de pilotage, de management. Donc pour moi, voilà, le coaching c'était un pont entre mon présent du moment et mon passé en entreprise. Puisque le coaching, en tout cas la formation qu'on a fait, est assez orientée coaching pour des professionnels dans des entreprises, même si bien sûr il y a un volet coaching de vie, hein. Mais pour moi, voilà, c'était l'idée d'être complet, de me sentir complet. Quand tu as une posture de coach,
Complet ou réunifié? Parce que ce que tu dis,
c'est
c'est
les
que tu
deux.
refaisais un peu des ponts avec le passé,
C'est les
finalement,
deux,
toi qui
c'est
adores le passé.
complet, ouais. C'est complet et réunifié. Exactement, c'est ça. C'est parce que j'ai pas du tout envie de renier ce que j'ai fait en entreprise avant. Et le côté hypnose juste en cabinet, comme je faisais, ça crée un peu une scission avec ce que je faisais avant. Et moi, j'avais envie un peu de réunir. On est une personne entière. Et j'avais vraiment envie, en faisant du coaching, de faire des liens. Voilà, faire des liens, de pas mettre à la poubelle, entre guillemets, tout ce que j'ai pu vivre ces 7 années d'expérience professionnelle dans des grands groupes. Voilà, j'avais envie, ouais, de pouvoir exprimer mon plein potentiel. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation de coaching, et là où j'ai rencontré Emmanuel. Donc voilà, j'en suis arrivé comme ça. C'était ça ta question, hein. Pourquoi j'y suis arrivé, ouais.
Ouais, donc et aujourd'hui, tu te situes comment alors de ton rêve d'être président?
Eh ben, du coup, celui-là, je l'ai un peu lâché. Du coup, je continue mon rêve de rockstar, puisque je continue la musique. J'ai repris, là, on est en train de préparer un album, enfin, en tout cas, déjà un premier EP avec mon ami, parce qu'on est en duo. Et donc, ça, ce rêve-là, on le continue. Et en dehors, il y a toujours le désir d'accompagner des personnes d'accompagner aussi des entreprises. Là, je développe de plus en plus le côté intervention en entreprise avec le coaching. Et tout simplement, voilà, d'être en place, aligné avec ce que je suis actuellement. Et ce que je suis, voilà, c'est pas juste faire de l'hypnose en cabinet. Là, c'est quelque chose de plus large. C'est pouvoir accompagner des personnes à révéler leur potentiel dans une entreprise. Ça peut être tout simplement présenter des formations, des séminaires. On en parlait avec Emmanuel, des masterclass, pourquoi pas.
Ouais.
Voilà, en tout cas, c'est élargir les possibles. Parce qu'il y a quelque chose dont j'ai pris conscience, auquel je n'avais pas conscience avant, et j'en parlais même avec Emmanuel tout à l'heure, c'est ce côté cyclique. C'est-à-dire que, il y a un coach qui l'explique très bien d'ailleurs sur YouTube, c'est les cycles de la vie, c'est un peu comme les saisons.
C'est qui le coach?
Ouais, mais là, j'ai pas le nom comme ça.
Ah, ok, si tu y penses, tu me redonneras. Et
ouais, comme ça, tu compléteras. Et il explique vraiment très, très bien cette idée de saison. C'est, voilà, quelque chose est nouveau en construction, c'est le printemps. Et donc, tout est merveilleux, on construit, ok. L'été, bah voilà, c'est la chaleur, ça y est, là, on récolte les fruits. L'automne, ah, ça commence à se gâter, c'est un peu moins sympa. Et puis, l'hiver, ça se meurt. Et ce qui est très bien expliqué dans cette vidéo qu'on retrouvera, c'est que toute chose finalement est régie par ce type de cycle. Et si on ne se renouvelle pas, même si on s'est reconverti et qu'on est bien là où on est, eh ben, ça risque de se mourir.
Et se mourir, en l'occurrence, c'est qui? C'est les personnes? On va mourir si on ne se renouvelle pas?
Le système, ouais. Ce qu'on a créé. Et moi, je le vois très bien, ça fait 5 ans que je fais de l'hypnose en cabinet. J'ai senti très honnêtement à un moment donné qu'il fallait que je diversifie, qu'il fallait que j'aille vers d'autres choses parce que sinon le système allait s'épuiser ou j'aurais été peut-être moins en place, peut-être moins bon à ce moment-là. D'où l'idée de se diversifier et ça je l'avais un peu senti venir, c'est pour ça que j'ai voulu faire le coaching pour avoir d'autres cordes à mon arc, pour avoir une vision plus large et pour pas être juste limité sur une technique.
Et si aujourd'hui tu devais donner des conseils, alors conseils hein,
ouais,
et pas
là
coaching,
là.
Ah ouais, nous les
c'est
coachs,
un, c'est un gros mot normalement.
Nous les coachs, on est habitués à poser des questions plus qu'autre chose.
On n'a pas le droit aux conseils.
Mais là, on s'en fout quoi, tu vois, on dit ce qu'on veut, on est libre.
Okay.
Si tu devais donner des conseils à des gens qui se posent des questions pour se reconvertir, qu'est-ce que tu leur dirais?
Ouais. Ah, je vais dire un truc. Allez, je l'ose.
Vas-y.
Faites-vous coacher par Emmanuel, par moi ou par tout autre coach qui vous paraît bien.
Et un conseil moins commercial.
Ouais, moins commercial.
Un peu plus inspirant,
tu vois.
Attends,
je donne ton numéro.
Genre
ou...
à la Brian. Quoi.
Voilà, à la Brian. Ok. Alors, je pense que ce conseil-là, n'empêche, il est quand même bien parce que soi-même, tout seul, c'est pas forcément évident. Donc, cette idée de se faire aider, même que ce soit par un coach, que ce soit d'en parler à des gens, que ce soit parler à des amis, en fait, de mettre quand même le sujet sur la table. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'écouter.
Comment on fait pour s'écouter?
Comment on fait pour s'écouter? Déjà, on fait silence et on écoute ses émotions, on écoute ses pensées, on écoute ce qu'on ressent, on écoute son inconfort. Parce que on nous apprend depuis tout petit en gros il faudrait être bien tout le temps, que être bien c'est bien, être pas bien c'est pas bien, etc. Pleure pas, sois pas triste, nanana. Tout ça pour moi c'est des conneries. Ça veut dire que il y a autant de choses à tirer d'une joie que d'une tristesse. Si on a à un moment donné un inconfort dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'exprime, c'est qu'il y a souvent un besoin qui n'est pas satisfait. Et moi, ce que j'aurais envie de dire aux gens là, c'est d'écouter quel est le besoin qui n'est pas satisfait, d'aller le chercher, de se dire tiens, là je suis triste, qu'est-ce qu'elle me raconte cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle me dit? Tiens, là dans mon boulot, je me sens plus à ma place. Tiens, qu'est-ce qui fait que je suis plus à ma place? C'est quoi l'émotion derrière? Ah, ok, bon, d'accord. C'est de la tristesse par exemple. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait que j'aie pour ne plus sentir cette émotion inconfortable. Ça veut pas dire ne plus, ça veut pas dire la masquer ou la supprimer. C'est la changer, la transformer, passer d'une tristesse à un nouveau confort. Parce que cette émotion-là, elle est inconfortable et elle nous fait bouger. C'est grâce à des émotions dites inconfortables que l'on bouge. C'est parce qu'on va être triste qu'on va bouger. C'est parce qu'on va être en colère qu'on va mobiliser de l'énergie pour quelque chose. Et donc, moi, j'aurais envie de dire, ouais, écoutez vos émotions, écoutez vos pensées aussi quand vous avez des idées qui vous viennent, de pouvoir les pousser un peu plus loin que juste l'idée qui est apparue, se dire, tiens, et si j'explore ça, qu'est-ce que ça fait? Tiens, comment je m'imagine être, comment je me sentirais, de se projeter un petit peu. Et tout simplement de se dire, quand quelque chose me fait peur, en fait, qu'est-ce que je désire? Tiens, j'ai peur, par exemple, de manquer d'argent dans ma reconversion, parce que souvent, on le voit quand on coach des gens, ce qui apparaît souvent, c'est ouais, mais si je me lance, j'ai peur que financièrement, ça soit compliqué, etc. Ben, là-dessus, c'est peut-être de se dire, ok, si je transforme cette phrase-là en je désire, c'est quoi? Ben, je désire quoi? Je désire que ma nouvelle activité soit source d'argent. Je désire que ma reconversion se passe financièrement d'une belle façon. Et déjà, de le formuler comme ça, on va s'orienter différemment. On va s'ouvrir. Et là, on va chercher des solutions. On va plus juste être bloqué sur des peurs, sur des freins, sur des obstacles. Et du coup, bah, la reconversion, on va la diriger en tenant compte de ce critère. Et du coup, on va peut-être y aller progressivement, comme par exemple, je l'ai fait. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas lancé du jour au lendemain. J'ai d'abord fait les deux activités en parallèle. Donc, s'écouter, se faire aider, je pense que c'est vraiment la clé.
De ne pas rester seul dans cette situation. C'est vrai que c'est des fois le plus compliqué. Quoi. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment très très important, et que je dis souvent aussi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et souvent, notre entourage proche, ce n'est pas forcément les bonnes personnes, justement.
Ouais. Et c'est-à-dire, se faire aider, c'est pour ça qu'un coach, il y a un avantage, c'est qu'il va être neutre. Alors que l'affect, quand on parle à des proches, il joue beaucoup. Et du coup, ça peut être très, très limitant quand on a des personnes qu'on aime qui nous transmettent cette inquiétude. Mmh. Donc, en parler aussi à ses proches, mais à un moment donné, savoir ce qui est à eux. Tiens, ça, c'est leur peur. Tiens, ça, c'est leur crainte. C'est leur vie, en fait. Mais on peut tout à fait dissocier sa vie, son ressenti du ressenti des autres. Si on avait tous le même ressenti, on avait tous les mêmes pensées, on ferait tous la même chose. Et heureusement, on ne fait pas tous la même chose. Je pense qu'il faut aussi voir grand, croire en ses rêves, et ne pas soi-même se mettre aussi des barrières. Parce que souvent, on a tendance à se mettre des barrières. Si dès le départ, on part avec l'idée que sa reconversion va être difficile. Tiens, moi, la dernière fois, j'achetais une bouteille de vin et le caviste, il venait de remplacer un ancien caviste. Et je lui dis, alors comment ça va les affaires? Ça faisait 6 mois qu'il était là. Et il me dit, bof, hein, de toute façon, moi, je sais très bien qu'il faut au moins 3 ans avant que les gens s'habituent à moi, etc. Là, il y a une croyance énorme. Il se raconte une histoire, le gars. D'où il sort ça? Je sais très bien qu'il faut 3 ans. Ah bon? Quelle étude? Quels gens? Dans quel commerce? Dans quel domaine? Là, en fait, on peut questionner cette croyance. Et ça peut être intéressant quand on a des idées préconçues. Je pense qu'on est quand même capable de les déceler soi-même. Mais quand on ne les décèle pas soi-même, un coach va les pointer. Et là, de se dire, mais ce que je me raconte, ce que je me dis, est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que ce n'est pas juste un truc que j'ai entendu et du coup, je le répète un peu bêtement? Et s'il se raconte ça, le caviste, il ne va pas être à l'aise avec ses clients.
Et il risque de mettre 3 ans, effectivement.
Et il risque vraiment, en fait, du coup, de faire une croyance qui s'auto-confirme.
Et c'est con, parce que peut-être que ça aurait cartonné plus tôt.
Exactement. Alors que le gars qui va arriver en disant, moi, je vais créer le contact direct, je vais me mettre dans un relationnel positif, ils vont même me préférer à l'ancien.
Ouais. Il va tisser des liens différents.
Il n'est pas du tout dans la même approche. Ouais, c'est clair. Pas du tout.
Yes. Bon, Arnaud, ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle. Alors, au départ, tu me disais, oh là là, comment je vais faire pour tenir?
Ah ouais, c'est toujours
Et au final, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça.
C'est un plaisir.
Et tu te sens comment après cet échange comme ça, t'être racondé?
Ouais. C'est sympa. J'aime bien l'expérience. Je trouve que si ça peut du coup donner des perspectives à certaines personnes, j'en serais ravi. Je te remercie en tout cas, Emmanuel, pour l'expérience.
Et si on veut te retrouver sur l'internet mondial
sur
ou dans
l'internet.
Ton cabinet, où est-ce qu'on
Alors,
peut te retrouver?
Sur les internets. Donc, vous pouvez me retrouver. Je vous donne mon site. Donc, c'est arnaud-amoyal-renard.fr. Pour le coaching, j'ai mon site d'hypnose aussi, hypnose et changement, hypnose-et-changement.fr.
Moi, je l'écrirai comme ça.
Voilà. Et puis vous pouvez tout simplement vous taper sinon sur Google Arnaud Amoyal Renard et vous allez tomber sur moi, j'exerce à Sceaux et je peux vous recevoir en cabinet. Voilà.
Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir été le premier le premier crash test de mon interview.
Et ben merci à toi, Emmanuel.
C'était cool. Et puis à bientôt. Encore un grand merci à Arnaud pour sa confiance, pour cette interview qui n'était pas spécialement prévue. C'était vraiment très très chouette de faire cet exercice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager auprès de personnes à qui ça pourrait intéresser, que ça pourrait inspirer. Et puis, dès que c'est présent sur les différentes plateformes, à noter favorablement ce podcast pour aider à le faire connaître. Je vous souhaite une bonne journée et encore merci pour votre écoute. Ciao! Bonjour! Vous écoutez l'épisode numéro 3 du podcast Parler de nos vies, le podcast inspiré et inspirant pour vibrer un peu plus chaque jour. Je suis Emmanuelle Amey, coach, blogueuse, slasheuse et curieuse, et j'ai envie de partager avec vous mes découvertes, de simplifier un peu le développement personnel pour se recentrer sur l'essentiel, vous.